est 11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue ici, rejoignez chers auditeurs. 11h, c'est un horaire inhabituel, mais c'est le lancement de la grille d'été. Et oui, votre radio préférée prend aussi ses quartiers d'été. Et nous allons vous retrouver du lundi au vendredi de 11h à 13h avec une rediffusion de 16h à 18h. Grand merci à l'équipe d'antenne, à l'équipe de programmation musicale et à l'ensemble de nos bénévoles pour cette belle programmation qui s'annonce. J'ai le plaisir d'ailleurs de recevoir aujourd'hui en studio avec moi pour lancer cette quotidienne Parasol du Port de Loire deux voix que vous allez reconnaître, je l'espère. On les félicite tout d'abord avant de les annoncer puisque c'était nos premiers lycéens bénévoles à la radio. Rappelez-vous, c'était l'émission EP. Alors bonjour Pauline.
Salut. Salut Mélissa.
Salut Raphaël.
Salut Mélissa.
Alors vous allez nous proposer durant cet été une émission, une rubrique. Est-ce qu'en deux mots vous voulez nous dire de quoi il s'agit puisque c'est aujourd'hui la première à 11h30?
Alors ça va s'appeler Autour de l'actu et donc on reviendra sur l'actualité autour de Tours en essayant de l'axer...
le jeu de mots.
Le jeu de mots trouvé par Raphaël évidemment, en essayant de l'axer pour le public de Radio Campus. Des actus sur la politique, sur ce qui se passe à Tours, sortir, faire des choses.
Voilà, on va essayer d'interviewer des gens au niveau du local, des élus ou des associations, etc. Puis on va essayer de proposer un petit contenu assez sympathique, ma foi.
Voilà, et donc cette semaine, puisque nous avons aussi, on aime les challenges à Radio Campus, donc on s'est dit que cet été, on se donnerait des thématiques de semaine, donc les thématiques des deux semaines à venir. Ça va être révolte et contestation diverses et variées. Donc, chers auditeurs, vous allez entendre des contenus en lien. Donc, on peut remercier déjà Sébastien qui fait une émission autour de l'histoire du foot, qui a souhaité vous proposer quelque chose autour du Chili. Et également Philippe, voilà, que vous avez entendu dans En attendant que le monde change, et aussi dans l'émission sportive. Et lui aussi vous proposera un éclairage sur les faits étonnants de notre histoire. Et je vous propose d'écouter également une chronique. Alors c'est la chronique grognon de Kim Dojivoche. Voilà, donc aujourd'hui, la chronique s'intitule « Que des salades ». Mais de quoi parle-t-il? Eh bien, je n'en sais rien. C'est pour ça que je découvre avec vous cette chronique. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour.
Rien que des salades. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous parler de quelque chose de sérieux. Car aujourd'hui, j'ai compris que ce besoin de faire rire, cette manie d'être souvent, je le reconnais, désopilant, parfois même hilarant, cache un mal-être profond, dissimulé sous un nappage d'ironie et de cynisme. Un mal-être qui me venait, je vous le donne en mille, de mon alimentation. Je mangeais n'importe quoi, des steaks tartare, du brochet, parfois même, et c'est difficile pour moi de le reconnaître publiquement aujourd'hui, des frites et des panais. Bien entendu, je n'essaye pas de vous convaincre d'adopter le même régime que moi. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. J'essaye juste de vous raconter quelle démarche j'ai entreprise sans aucun prosélytisme. Faites comme vous voulez, hein. Vous mourrez, mais après tout, c'est votre choix. D'abord, j'ai arrêté tous les aliments transformés. Je ne veux pas laisser à l'industrie agroalimentaire le soin de décider ce que j'ingère. Fini donc les lasagnes industrielles, les petits gâteaux, les saucisses, fini la farine, car Dieu sait quelles manipulations ont été nécessaires pour transformer ainsi d'innocentes céréales. Fini le miel. L'industrie agroalimentaire aimerait nous faire croire qu'il est produit par des abeilles. Je vous rappelle que les abeilles meurent quand elles piquent, car elles laissent leur abdomen avec l'aiguillon. Et on aimerait nous faire croire que les insectes infoutus de concevoir un moyen de défense un peu plus cohérent savent transformer des fleurs en miel et que nous, non. Bien sûr, trop facile. J'ai beaucoup entendu parler de l'alimentation vivante et j'ai essayé de m'y mettre. Que des produits vivants, des fruits à même l'arbre. Ce n'est pas évident quand on habite au centre-ville, mais avec un peu de volonté, tout est possible. Beaucoup de fleurs, de la viande à même l'animal. Attention toutefois, la plupart ne se laissent pas faire facilement. Car la nature est bien faite, les fruits repoussent, les fleurs aussi. La viande aussi, si on prend soin de ne pas toucher aux os. Plus du tout de légumes. Les légumes poussent dans la terre, je vous rappelle. Or, de quoi est-elle composée? Végétaux en décomposition, déjection de vers de terre. Je ne voudrais pas manger de ça. J'ai essayé, j'étais malade. Je ne vois donc pas pourquoi je mangerais quelque chose qui mange de ça. Je bois beaucoup d'eau également, de l'eau de source, uniquement, pure et naturelle, à même la rivière. Bien entendu, ce n'est pas toujours pratique, mais une alimentation saine vaut bien quelques efforts. C'est amusant. Au début, mon corps s'est rebellé contre ce régime. Il a réagi de façon très violente. J'ai compris que je n'avais pas été à son écoute. Je lui ai demandé ce qu'il voulait vraiment. Il m'a répondu « Un bon gros steak senior avec des tas de frites !» Je lui ai dit « Non, mais vraiment, au fond de toi. » Il m'a dit « Une pizza 11 fromages avec un plateau de fromage !» Je lui ai dit « Écoute, si la nature avait voulu que nous mangions du lait de vache, elle aurait fait de nous des vaches. » Il m'a dit « Ok, bon, je te laisse décider. » Puis, l'infirmière est entrée et mon corps m'a dit « Ah, il y a bien un truc dont j'ai envie. » Mais c'était atrocement sexiste. Comme je ne pouvais pas être à l'écoute de mon corps, apparemment lobotomisé par des années de propagande de l'industrie agroalimentaire, j'ai demandé à l'infirmière si je pouvais être à l'écoute du sien. Et je me suis fait renvoyer de l'hôpital. Le monde est cruel avec les rêveurs. Il fallait donc que je revoie ma stratégie alimentaire. Et c'est là que j'ai entendu parler de cette boisson miracle. Elle est composée de graines germées, principalement de graines d'orge. Il n'y a rien de plus sain que les graines, car elles portent la vie en elles. Je vous passe les détails. On ajoute à ces graines germées de l'eau, de source et des levures, afin d'optimiser le potentiel de vivacité du produit. Puis, on laisse reposer. Car quoi de plus important dans notre société que de savoir prendre son temps ? On les laisse reposer afin de procéder à ce que l'on nomme la fermentation. On met en bouteille. Depuis, je ne me nourris plus que de cette boisson, que vous trouverez dans tous les supermarchés sans que l'industrie agroalimentaire, évidemment, ne vous prévienne de son haut potentiel. Maintenant, je me sens mieux dans mon corps, souvent très gai, parfois même sans raison. Je dors mieux aussi. Il y eut au début quelques effets secondaires fâcheux, mais je suis m'en accommodé, car le bien-être de mon corps est à ce prix. Et puis, comme je suis bourré en permanence, je m'en moque un peu aussi.
There are people in town, men, crazy people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. They believe we are wild men, they believe we are wild, just because we don't use any money and we drink no coffee cola. But if you could go and see how they live, then you discover how savage they are, so much wilder than we. There are people in town, man, we are people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. Money is what they like most, money is what they like, and people who have plenty of money belong to high society. But if you could go and see how they live,
a shame.
Then you'd discover how savage they are, so much wilder than we. They keep dreaming of war, man, hate and crime everywhere.
I was told that is to get the money they need to buy coffee cola. They keep dreaming of war, they hate and crime everywhere. That is the way they can find the money they need to buy coffee cola.
Francis Bébé sur Radio Campus Tour, vous écoutez Parasol et Bord de Loire, et j'ai un problème de micro, chers auditeurs, j'espère que vous m'entendez, Parasol et Bord de Loire, la belle quotidienne estivale de Radio Campus Tour. Voilà, nous avons entendu la chronique ronchon de Kim Dojivoche, un petit Francis Bébé, et puisque nous sommes Radio Campus Tour et que nous accueillons des volontaires en service civique depuis quelques années déjà, je vous propose d'écouter un jeune homme qui fut service civique à l'UFOLEP. Voilà, c'est la branche sportive de la Ligue de l'Enseignement. Ligue de l'Enseignement qui vous proposera avec d'autres partenaires en septembre prochain le forum service civique sur lequel nous aurons le plaisir de venir poser avec toutes les précautions nécessaires notre studio mobile. Donc nous écoutons de ce clic, Bastien, qui nous parle de son service civique à l'UFOLEP. On se retrouve tout de suite après sur les ondes de notre belle radio. Vous connaissez le service civique ?
Tu as entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Tu souhaites t'engager pendant 6 à 10 mois pour une mission de volontariat sur le thème de la culture, de l'environnement, du sport, de la citoyenneté.
Et tu veux en savoir plus ? Samuel, Fatma, Antoine et les autres te racontent leur expérience. Service civique.
Je m'appelle Bastien et j'ai 24 ans. J'ai fait une mission de service civique à l'UFOLEP 37, qui est une association multisport, en fait, qui regroupe plusieurs clubs. Il y a des clubs de foot, il y a des clubs de volley. Je ne la connaissais pas du tout, cette asso. Et en fait, le jour de mon entretien, je pensais aller faire un entretien pour une radio. Je cherchais en fait un service civique. Et en fait, j'avais mis énormément de candidatures partout. Enfin, on m'appelle, puis je suis arrivé à l'entretien en étant persuadé en fait que c'était un entretien pour une radio. Et au final, l'entretien s'est super bien déroulé. La mission m'avait emballé, même le sport, c'est un milieu qui m'intéresse. Et je suis arrivé là-bas. Moi, avant de faire le service civique, j'étais à la fac. J'avais un ami qui faisait un service civique. Et il m'en avait parlé de manière très, très positive. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air super sympa. C'est une aventure d'un an. On a une indemnité. Où en plus, il n'y a pas forcément de demande, pas de compétences, etc. Donc, vraiment, je trouvais que c'était tout bénef pour un jeune, en tout cas, d'essayer de se lancer là-dedans. Une envie, de trouver ma voie. Et au lieu de m'engager dans un cursus universitaire ou autre, je trouvais que c'était beaucoup plus sympa de se confronter, à une activité professionnalisante, pas professionnelle, mais en tout cas professionnalisante, de découvrir un petit peu l'envers du décor, de ce que ça peut être, mine de rien, d'avoir des choses à faire, des tâches à faire pour les autres, pour soi, et surtout, moi, je voulais découvrir mon domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, donc c'est la communication, et je trouvais que ça aurait pu faire un super tremplin, me dire, j'aime pas, mais au moins, je l'aurais vu en pratique, et pour moi, la pratique, c'était le plus important. Je m'occupais du Facebook, donc c'était on faisait des jeux concours, postait régulièrement sur ce qu'on faisait comme action, les actions qui étaient faites par les salariés de l'UFOLEP et puis par l'UFOLEP en général. Ensuite, il y avait des sites web aussi, les résultats du week-end, mettre une petite photo sympa, ce genre de choses, ou même créer des nouvelles rubriques sur le site. Il y avait aussi une newsletter. Après, il y avait de l'organisation d'événements, par exemple sur l'AG, où j'ai aidé sur ça. Le plus important, déjà, c'est que j'ai appris que je voulais en faire mon métier, déjà de faire de la com. Après, en compétences pures, on va dire des compétences humaines au lieu du technique, c'est-à-dire travailler en équipe, c'est vraiment un point très important. L'associatif, mine de rien, moi je le conseille de le faire à tout le monde parce que ça permet quand même de s'ouvrir sur les autres. Après, en technique, je commençais un peu à manier Photoshop, donc là j'ai fait mes premiers pas de montage. C'était des choses affreuses, mais il y avait Photoshop, il y avait l'organisation d'événements aussi, le fait de s'améliorer sur la parole aussi, le fait de vouloir exprimer ses idées, parler, etc. C'est surtout des compétences humaines, je pense, que j'ai réussi à acquérir sur ça. Ce qui est bien aussi, c'est que le service civique, ça permet de vous accompagner sur votre projet d'après. Il y a du temps qui est alloué à ça. Et du coup, moi, durant mon service civique, j'ai pu affiner mon projet pro, qui était de trouver un patron en alternance, en communication, du coup, pour faire un BTS. Après le BTS, j'ai fait une licence professionnelle en marketing numérique où je voulais de nouveau le faire en alternance. J'ai travaillé à l'ARS, Centre-Val de Loire, donc l'Agence régionale de santé. J'ai poursuivi un master toujours en... Du coup, là, c'est du marketing digital. Je suis en master 1. Pour septembre, je serai en master 2, toujours dans la même entreprise et toujours en alternance. L'université, c'est bien pour les gens qui arrivent à être autonomes, ce qui n'est pas mon cas. J'étais très, très mauvais en terminale. Je ne m'étais pas donné les moyens de réussir. Je pouvais aller que à la fac, il faut être honnête. J'ai vu que ce n'était pas du tout fait pour moi. Après, je me suis dit, il faut que j'ai quand même une expérience professionnalisante. Du coup, le volontariat m'a permis de faire ça. Et oui, très clairement, sans le service civique, j'aurais jamais eu accès à mon BTS, à mon employeur BTS, à ma licence pro, à l'employeur de ma licence pro, et là, à mon employeur de master. Sans le volontariat, j'aurais jamais eu accès. Donc, ça a vraiment servi de tremplin. C'est ce qui m'a permis de commencer mes études même. Et dans mon cas, moi, ça m'a permis de trouver ma voix, très clairement.
Service civique, le pouvoir d'être utile.
C'est un dispositif que je recommande à tout le monde.
Service civique.
Service civique.
Service civique.
Un service civique.
Volontariat de service civique.
La Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire et le Bureau Information Jeunesse, en partenariat avec la Mission Locale et le Réseau Engagé des Volontaires, organisent pour la 6e année consécutive le Forum de Mobilisation Service Civique. Nous t'attendons le vendredi 11 septembre de 16h à 20h à la mairie de Tours pour rencontrer les structures qui souhaitent t'accueillir. Avec 400 postes à pourvoir, cet événement gratuit et ouvert à tous est l'occasion rêvée pour toi de tenter une expérience d'engagement.
Événement soutenu par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Et en attendant, retrouvez toutes les informations sur le site service-civique.gouv.fr.
Une série de portraits d'anciens volontaires en service civique à retrouver tout l'été sur nos ondes. Il y en a 10. Tendez l'oreille pour tous les entendre. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, cette émission Parasol et Bord de Loire du jour se poursuit après une pause musicale par la chronique de Raphaël et Pauline, nos anciens EP. Donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur nos ondes. Et pour vous laisser le temps de vous mettre en place, de vous échauffer, je vous propose, chers auditeurs, de faire une pause musicale et nous allons écouter un petit peu de jazz. Nous allons écouter quoi donc ? Eh bien, Michel Portal. On va écouter Burundi. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour.
Coucou. Le tour de l'actu, c'est tout de suite avec Raphaël et Pauline sur Radio Campus Tour 99.5.
Oui, bonjour à tous, il est 11h30, 11h25 même, on a un petit peu d'avance et c'est donc le tour de l'actu et je suis bien évidemment accompagné de Pauline.
Salut Raphaël.
Et voilà, peut-être que vous me connaissez, si vous écoutez un petit peu avant, voilà, on est les anciens de HEP et d'Études Express et comme si ça fait très longtemps que vous écoutez Radio Campus Tour et vous ne zappez jamais, vous avez peut-être reconnu le jingle d'Études Express parce que on est en manque d'inspi, voilà.
Et un nouveau jingle viendra bientôt.
On espère. Et donc, Pauline, est-ce que tu peux nous présenter ce petit projet d'émission
Ouais, bien sûr. Alors, autour de l'actu, comme son nom l'indique, ce sera une émission qui parlera de l'actu autour de Tours. Un petit jeu de mots de qualité. Notre but, donc, c'est de faire vivre la politique locale et les initiatives locales, associatives, dans l'actualité à Tours et en particulier auprès des auditeurs de Radio Campus. Donc on essaiera de vous faire des petits formats sympathiques et informatifs qui pourront vous apprendre des choses tout en vous divertissant.
Et donc voilà, vous pouvez peut-être retrouver, c'est une sorte de condensé des émissions qu'on a fait précédemment hein, sur Radio Campus Tours avec HEP et Études Express, où on va justement, comme elle a dit Pauline, s'intéresser à la vie locale. Alors on aura peut-être moins d'intervenants, mais on va se déplacer sur le terrain et faire des interviews, et on espère que ce contenu, ce petit condensé en une demi-heure de politique locale va vous intéresser. Et donc aujourd'hui, oui, pardon, ouais, peut-être qu'on vous donne le thème d'aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu,
ça serait
très utile. Hein.
Ben, le thème d'aujourd'hui, évidemment, pour nous, on revient sur les municipales du 28 juillet.
Oui.
Donc Raphaël vous parlera de la sociologie des maires.
Oui.
Et moi, je vous parlerai de la vague verte, la fameuse vague verte, en essayant de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment un tournant écologiste ou non?
Exactement. Bon, on va surtout se poser la question si Europe écologie, c'est vraiment écolo. On sera peut-être un petit débat en fin d'émission. Voilà, puis Mélissa est dans le studio, elle est là. On ne l'entend pas, mais elle nous regarde. nous sommes surveillés.
Elle veille sur nous.
Pour voir si on ne dit pas de bêtises. Et donc, je propose qu'on commence tout de suite par notre première chronique,
Pauline. Ouais,
exactement. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu des maires, car ce sont des personnages centraux de notre vie au niveau local. C'est vers la personne vers qui on se tourne pour se plaindre d'un problème de voisinage, quand le voisin tombe sa pelouse le dimanche après-midi vers 19h, ce que je rappelle est interdit par la loi. Voilà, je fais passer des messages. Et du coup, on vient de les réélire et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de revenir sur ce que c'est un maire finalement.
Du coup, petit retour historique sur la fonction de maire ?
Exactement. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le maire, c'était celui qui administrait la ville pour le compte d'un seigneur. Donc, bien évidemment, au Moyen-Âge, on ne parle pas d'élection, il n'est pas élu. Il est donc désigné par le seigneur. Et donc, ça va changer avec la Révolution française. Le maire va être élu. On va avoir la mise en place d'une véritable démocratie locale. Mais très vite, on va supprimer cette fonction de maire car on a peur qu'elle prenne de l'importance et qu'elle donne en fait du pouvoir au niveau local. Et donc, elle va être... Et donc contester le pouvoir central de l'État qui s'installait à Paris. Pour la petite anecdote, voilà, les premières élections municipales en France ont lieu le 15 juillet 1790, mais se seront arrêtées 2 ans plus tard. Et donc c'est Napoléon qui va restaurer cette fonction de maire, mais ça va changer, on ne va plus voter pour eux, ils seront désignés par le pouvoir central et ils vont servir en fait à contrôler les populations locales, et donc la population va avoir une sorte de méfiance envers son maire. Et ce n'est qu'à partir qu'en 1882-84, avec l'instauration de la Troisième République, qu'on va commencer à réélire les maires. Et donc, il faut savoir que pendant un siècle, depuis la Révolution française, on n'a pas élu nos maires. Donc de 1790 à 1784, on n'élit pas nos maires. Et donc, à partir de cette élection démocratique au suffrage universel direct, c'est à partir de 84 que nous allons élire nos maires.
Des maires donc qui étaient de simples citoyens ou non ?
Alors, il faut savoir que dans les années 1880, il faut savoir que la République, elle est juste restaurée. On vient juste de la mettre en place, on est sous la Troisième République, après avoir connu une restauration, un empire, une autre République, etc. Et donc, on a un conflit très fort entre les partisans de la monarchie et les républicains. Sauf que ce conflit interne, les monarchistes, ils vont perdre, ils vont devoir se soumettre au jeu républicain, donc, c'est-à-dire participer aux élections, se convertir au jeu électoral. Mais en parallèle, il faut savoir que les citoyens, et généralement ceux des campagnes, ils n'ont pas l'habitude de voter, contrairement à nous. Nous, on a l'habitude, on lit les programmes, on met un bulletin dans l'urne, mais ça, c'est quelque chose de totalement novateur pour l'époque. Donc, il faut apprendre à voter. Et donc, les élections, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de tractage sur les places de marché. Et finalement, les citoyens, ils sont un petit peu peu intéressé par ces élections parce que ce qui l'intéresse, c'est de gagner des sous pour manger, parce qu'à l'époque, les conditions sont quand même très rudes. Et donc, il faut savoir que les monarchistes, mais aussi les partisans de la République, ils vont utiliser ce déficit de critique chez les citoyens, c'est-à-dire le peu d'intérêt des citoyens pour les politiques, pour remporter les élections. Et donc, au lieu de proposer des programmes ou des idées, ils vont acheter des voix. Alors, comment ils font pour acheter des voix ? Il faut savoir que les candidats aux élections à cette époque, ce sont des personnes avec un fort capital économique. Alors, pour ceux qui ont fait de la science politique ou ceux qui s'intéressent, il faut savoir que ces personnes, on les appelle des notables, car ce sont... ils sont bien placés dans l'hiérarchie sociale et donc ils ont une position de domination envers le bas-peuple ou les gens de tous les jours. Et donc ces gens-là, vu qu'ils ont un fort capital économique, ils l'ont soit par héritage, soit parce qu'ils possèdent des usines, des moyens de production. Et donc les salariés qui travaillent dans ces usines, dans ces ateliers, etc., ils vont devoir voter pour le propriétaire de l'usine. Et donc on va avoir un petit peu des scènes surréalistes qui pourraient paraître à notre époque, qui pourrait paraître surréaliste à notre époque, c'est-à-dire qu'on va avoir des cortèges d'ouvriers qui partent des usines pour aller voter tous ensemble sous la surveillance des contremaîtres. Donc imaginez des ouvriers qui sortent de l'usine Renault PSA pour aller voter, c'est quand même assez marrant. Tout ça sous le regard malveillant de Carlos Ghosn pour glisser un bulletin dans l'urne. Et donc, on va avoir d'autres moyens aussi pour ces personnes de se faire élire. À l'époque, il faut savoir qu'on n'a pas d'urne transparente et sur les tables des bureaux de vote, les bulletins avec les noms de chaque candidat ne sont pas forcément disposés, on les imprime pas encore. Et donc, on va avoir des scènes encore plus surréalistes qui se produisent. Par exemple, on a soit du bourrage d'urne parce que les urnes ne sont pas transparentes et donc on peut facilement glisser des bulletins, ou alors dans le bureau de vote, il n'y a qu'un seul bulletin de proposer alors qu'il y a plusieurs candidats. Donc imaginez une mairie avec trois candidats, mais avec qu'un seul bulletin de vote avec le nom d'un seul candidat. Ou alors on a d'autres aussi, alors tout ça bien évidemment on pouvait le vérifier aux archives départementales, voilà, la plainte texte il relaye, et donc on a aussi des cas d'agression envers les personnes qui viennent voter seules, pour forcer ces personnes à voter pour tel candidat. Alors bien évidemment, l'État, il a réussi à enrayer ce phénomène, parce que maintenant les élections ne se passent plus comme ça, et il l'a fait en perfectionnant le système de vote, donc, c'est-à-dire les urnes transparentes, des bulletins imprimés et écrits, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus les bulletins à la main, à l'époque on faisait comme ça, et donc on va aussi mettre en place l'isoloir, un tas de choses qui vont faire le système de vote tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Et donc l'État, c'était le seul à mettre un terme à ces pratiques ?
Alors non, il faut savoir qu'on a des nouvelles personnes qui vont arriver sur le marché électoral, comme pourrait employer un libéral de notre époque. Ce sont les nouveaux entrepreneurs politiques. Alors eux, ils sont issus de milieux éduqués, intellectuels, mais n'ont pas forcément un grand capital économique. C'est une sorte de petit bourgeois, entre guillemets, pour simplifier. Et donc, ils vont proposer quelque chose de révolutionnaire à l'époque, c'est-à-dire des programmes. Et les gens, ils ne vont plus voter sous la contrainte, mais ils vont se libérer de cette contrainte et ils vont voter pour des idées qui vont s'affirmer via des collectifs, des associations, dans les communes, etc. Et donc, alors minimum, ça se fait pas en un jour, mais les notables, face à ce phénomène de programme, ils vont être obligés de se convertir et donc... les gens vont finalement se mettre à voter pour des programmes et non plus pour des personnes qui achètent leurs bulletins.
C'est à ce moment-là que la politique telle qu'on la connaît est née ?
Exactement. Une fois que les programmes deviennent l'enjeu des élections, on va entrer dans ce qu'on appelle la professionnalisation politique. C'est-à-dire que des personnes de la société vont vivre pour et par la politique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des indemnisations et des aides pour les élus. Donc là, je parle à la fois pour les maires, les députés, les sénateurs, etc. Les ministres également, les présidents de la République, les premiers ministres. Et donc, c'est aussi la période où les partis politiques modernes vont se mettre en place, car à l'époque, c'est plus facile d'avoir l'appui d'un parti pour se faire élire, plutôt qu'y allant en candidat libre.
Et maintenant, le maire, c'est un simple citoyen, tout le monde peut se faire élire maire ?
Alors, en théorie, oui, mais en pratique, non. Alors, pour comprendre, c'est là qu'on va attaquer le versant un petit peu sociologique de la chronique, c'est-à-dire qu'actuellement, les maires en France représentent une certaine élite sociale, comme tous les autres élus, d'ailleurs, dans la société, donc, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, etc. Et donc, voilà, j'ai quelques données à vous donner, si vous voulez. Un petit jeu de mots, c'est gratuit. 70% des maires des villes de plus de 10 000 habitants. Donc plus de 10 000 habitants, c'est Saint-Avertin, Tours, Saint-Pierre, voilà, ça c'est plus de 10 000 habitants. Et ce sont des cadres majoritairement issus de la fonction publique. Et aussi, dans les communes de plus de 10 000 habitants, toujours, on observe une domination des professions intellectuelles et des cadres au sein des conseillers municipaux et des maires. Donc, c'est-à-dire que les maires sont généralement des cadres avec un revenu assez convenable. Et en termes de diplôme, eh ben, ils sont en moyenne mieux... alors là, je parle vraiment de la fonction du maire. En moyenne, à l'échelle nationale, les maires sont mieux diplômés que les autres membres du conseil municipal. Et donc, le maire domine ses adjoints et ses conseillers. On va avoir une sorte de domination intellectuelle et, en termes de diplôme ou professionnel, envers ses collaborateurs. Donc maintenant, je propose qu'on s'intéresse aux conseillers municipaux. Alors, ces derniers sont majoritairement donc, des cadres et des retraités anciennement cadres. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une moyenne d'âge très élevée au sein des conseils municipaux. Ce sont des populations assez aisées avec un revenu qui leur permettent d'avoir des à côté. Et donc, les conseillers municipaux, bah, on va avoir une différence assez énorme de représentativité face à leurs administrés, et ce, dans tous les domaines. C'est-à-dire que les conseillers municipaux, bah, en termes de profession, ils vont mieux être lotis que leurs administrés, ou en termes de diplôme, en termes de revenus, ou même en termes d'ethnicité.
Et donc, mais comment les maires se font élire aujourd'hui ?
Alors, très bonne question, vu qu'ils n'achètent plus les voix, à part le Valois-Perret, comme on l'a vu dans les années 80, voilà, ils se faisaient élire en achetant avec le capital économique. Et aujourd'hui, pour se faire élire, les maires vont mettre en place un ensemble de capitaux, c'est-à-dire qu'ils vont articuler des capitaux. Alors, un capitaux, c'est, sans emprunter au terme économique, c'est-à-dire posséder, mais c'est aussi, on peut l'avoir dans une définition plutôt sociologique, c'est-à-dire posséder des capacités intellectuelles, une notoriété. Alors, capacité intellectuelle, j'entends plutôt diplôme, et des compétences dans le sens du monde du travail, c'est-à-dire que des compétences acquises au sein du monde du travail, c'est-à-dire, manier Excel ou des choses comme ça. Et même aussi, ils vont mettre en avant un ancrage social, les maires, c'est-à-dire une sorte de notoriété au sein de la ville. Et donc les maires, ils vont compléter ces capitaux aussi par des ressources dites intellectuelles, donc là ça va être le diplôme, etc. Ou même un héritage familial, si vous êtes né dans une famille assez aisée, intellectuelle, c'est-à-dire un père prof de philo, une mère qui travaille en littérature, vous aurez un capital intellectuel assez conséquent, et donc c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir acquérir, ces ressources intellectuelles, ils vont l'acquérir soit par l'affiliation, donc c'est-à-dire naître dans un milieu familial intellectuel, comme je viens de l'expliquer, soit par un militantisme partisan, c'est-à-dire s'engager au sein d'associations militantes, donc soit des partis politiques, des associations un petit peu politisées, etc. Et donc, tout ça, bien évidemment, c'est un petit peu à relativiser, parce qu'aujourd'hui, il est bien évidemment plus facile d'être maire qu'en 1880. Mais il faut garder à l'esprit que notre société, il y a des inégalités dans notre société, et on ne permet pas à tout le monde d'accéder à des postes à de hautes responsabilités au sein de notre société.
Merci Raphaël.
De rien. Et on va passer à ta chronique, Pauline, mais avant, on se fait une petite pause musicale.
Ouais, avec plaisir.
Alors Mélissa, qu'est-ce qu'on écoute ?
On va écouter du jazz.
Oh oui.
Oui, on va écouter Jackass Blues de Sidney Bechet.
Thank you.
Vous écoutez le Tour de l'Actu, vous êtes évidemment sur Radio Campus Tour, il est 11h43 et on va passer à la chronique de Pauline qui nous fait un petit retour sur le résultat des élections municipales.
Exactement, alors je vais vous faire un retour sur les élections municipales et en particulier sous l'angle qui a été celui de beaucoup de unes de journaux au lendemain des élections, la vague verte. On aurait dit que la France était passée au vert d'un coup d'un seul, que jamais avant il n'y avait eu de vague écologiste en France et que là ça y est, c'était le grand soir d'Europe Écologie Les Verts. Mais alors moi je vais m'interroger, est-ce que c'est vraiment une vague verte soudaine? Est-ce que c'est synonyme de tournant écologiste ou non? Alors déjà, il faut reconnaître qu'à Tours, mais aussi Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Poitiers, Marseille, Paris et d'autres, des candidats Europe Écologie Les Verts ou des programmes avec une forte notion écologiste sont arrivés en tête du dernier scrutin en date, donc les élections municipales du 28 juin. Donc ce qui fait de Europe Écologie Les Verts une force politique encore plus importante qu'elle l'était déjà, même si elle s'était déjà affirmée aux élections européennes dernières. Mais cependant, si on parle uniquement de ça, on occulte une certaine réalité de ce scrutin. Déjà, c'est l'abstention record qui est la grande gagnante, 59%, ce qui est énorme, en comparé surtout aux dernières élections municipales. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. La peur d'être contaminé par le coronavirus de certains électeurs qui ne les a pas poussés à se rendre dans les urnes. Le fait que, dû au confinement et à l'épidémie de coronavirus, les élections ont été repoussées à une période plus estivale, où en particulier les jeunes peut-être ne se sont pas déplacés dans les urnes parce que n'étant pas dans leur ville de résidence là où ils votent, dans leur ville d'inscription, et ce malgré la possibilité de procuration. On peut imaginer que ce soit les jeunes ou les personnes plus âgées qui avaient peur du coronavirus, elles se sont moins déplacées aux urnes. Et puis aussi, on peut aussi penser à un désintérêt de la politique qui n'est peut-être pas la raison majeure, mais qui de plus en plus est revendiquée par plusieurs personnes revendiquant le droit de ne pas voter et de s'abstenir. Mais alors ça pose problème parce que, bah, par exemple, pour ces maires élus fraîchement Europe Écologie Les Verts ou de programmes portés par l'écologie, on peut se demander quelle légitimité pour ces maires élus parfois par moins de 50% de la population, voire même des votants de leur ville. Donc ça, c'est la première chose pour moi qui vient même avant la vague verte, c'est l'abstention. C'est la vague d'abstention au municipal, pourtant au scrutin local où on n'arrête pas de répéter que oui, au niveau national, les Français se désintéressent de la politique, mais qu'au niveau local, ils y restent attachés. Là, ça fait quand même mal. Seulement 40% des Français ont voté. Mais c'est pas la seule information de ce scrutin. Il y a aussi la déconfiture pour LREM. Une seule ville remportée de plus de 100 000 habitants, Le Havre. Il aura fallu que Édouard Philippe, le Premier ministre, se présente dans une ville pour qu'une ville de plus de 100 000 habitants soit remportée par LREM.
Tout ça pour y rester en plus.
Oui, bah du coup, il a bien fait de se présenter. On peut imaginer que c'était quand même pensé avant. Et puis aussi, c'est le Rassemblement National, information qui n'a pas beaucoup fait parler, mais qui remporte Perpignan avec Louis Alliot, donc une figure importante du Rassemblement National qui a remporté la plus grande ville que le Rassemblement National n'ait jamais remportée. Ce qui est...
Qu'on peut imaginer que l'abstention les a aidés, comme les Verts, etc. Mais bon, oui. Ça, on en parlera. Je pense,
eux,
après.
Comme n'importe lesquels, on peut imaginer que ça a joué en leur faveur ou en leur défaveur. Ça, faudrait peut-être pousser les analyses plus loin. Donc, je ne me risquerai pas là-dessus. Et puis, on va y venir finalement, parce que oui, il y a quand même une réelle victoire pour Europe Écologie Les Verts. Le Parti écologiste a remporté 8 des 42 communes de plus de 100 000 habitants de France. C'est inédit pour eux... aux élections municipales, et dont particulièrement 4 des 10 plus grandes villes, Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Montpellier. Mmh. Et puis du coup, dans la région et les villes proches, Tours, évidemment, et Poitiers.
Cœur avec les doigts qui nous accorde une interview.
Oui, si vous voulez bien, répondez à nos mails. Et puis également, à Paris et à Marseille, c'est des programmes qui étaient portés fortement par l'écologie qui ont remporté, avec le programme d'Anne Hidalgo et de Michel Rubirola, qui promettent une gouvernance écologique. Donc ça, ce sera à leurs électeurs et aux habitants de ces villes de juger. Et donc, en comptabilisant toutes les villes reportées par Europe Écologie Les Verts, ainsi que Paris et Marseille, on arrive à 5 millions de Français qui habiteront donc dans des villes vertes, ce qui est énorme, et ce qui peut aussi influencer le niveau national, puisque ce qu'on sait, on sait ce qui se fait au niveau local peut avoir des répercussions sur le niveau national. Déjà, on voit Yannick Jadot qui se prend d'ambition pour les prochaines présidentielles et législatives. Et puis, par exemple, à Tours, les barons nationaux de la politique ont dit plusieurs fois, que ce soit Olivier Faure, Clémentine Autain, que les expérimentations faites des coalitions Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, Citoyenne, Génération PS, seraient des laboratoires pour savoir si ce serait des choses possibles au niveau national. Donc ça, à suivre.
Est-ce qu'on va avoir un bloc socialiste ?
Est-ce qu'il y aura un bloc de gauche centré autour de l'écologie ? Possible, mais pas sûr. Ça dépendra aussi peut-être des personnalités au niveau national.
Pense à Jean-Luc Mélenchon.
Du melon des différentes personnalités politiques. Et puis surtout, ça va dépendre de l'action concrète des maires, parce que si... pendant les 2 ans qui vont suivre jusqu'aux élections présidentielles, les administrés des villes écolos voient que leur vie a été changée par la nouvelle gouvernance, ils pourraient être enclins à voter davantage Europe Écologie Les Verts ou des listes portées par l'écologie au national, ou alors inversement. Donc on rappelle les compétences des mairies, c'est l'urbanisme, le logement, l'environnement, la gestion des écoles maternelles, des écoles primaires. Donc des volets sur lesquels les écologistes ont beaucoup à faire, puisque leurs programmes sont amplement axés sur ces compétences. Mais donc ça, ce seront donc à ces nouveaux maires écologistes de répondre à la question « Est-ce que ces élections municipales ont été un tournant écologiste ?» On verra ça concrètement. Et ce sera aussi à leurs électeurs de juger si ces maires ont répondu à leurs attentes. Et puis également, pas seulement à leurs électeurs, mais aussi à l'ensemble des habitants, d'être vigilants, parce que ce sont majoritairement les villes qui ont voté pour Europe Écologie Les Verts. Et on sait que dans les villes, les populations sont plus diplômées, plus riches, plus gentrifiées. Et donc d'être vigilant aux dynamiques de gentrification qui sont parfois et trop souvent le lot des quartiers et des villes qui se verdissent. Oui. Faire attention à ne pas opposer les volets sociaux et écologiques pour ces maires si jamais ils veulent consolider leur base électorale, qui est une base électorale profondément ancrée à gauche pour ce qui est des dernières élections. Et on pourra débattre de savoir si l'écologie
est un monopole de gauche.
Est dans son essence ancrée à gauche ou non. Un débat à avoir. Et cependant, ces maires, ces jeunes maires, plus jeunes que la moyenne, pour beaucoup des femmes aussi qui ont été élues sous l'étiquette écologiste, ils vont devoir compter avec le conseil d'agglomération auquel les villes délèguent de nombreuses compétences, et ce qui pourrait les bloquer dans leur action. Et être assez... invisible pour leurs administrés. Parce que, pour rappeler, le conseil d'agglomération donc, fait beaucoup de décisions, particulièrement au niveau de la mobilité, au niveau des crèches, par exemple. Et donc, ça pourrait bloquer les maires écologistes des villes si jamais les communes autour de ces villes n'ont pas voté Europe Écologie ou n'ont pas voté pour des listes de gauche compatibles avec leur programme. Parce qu'en effet, on rappelle que ces maires Europe Écologie Les Verts, ils ont besoin de trouver des majorités pour faire leurs projets au niveau des agglomérations. Et ça pourrait s'avérer plus compliqué de prévu, parce que si dans les villes, les votants ont particulièrement voté pour les listes de gauche et Europe Écologie Les Verts, dans les communes périurbaines et rurales, elles ont davantage voté à droite. Donc il faudra composer avec les différents sièges. Et en particulier à Tours, où l'enjeu est très intéressant, puisque si la ville est passée verte avec la victoire d'Emmanuel Denis et de sa liste, et de la coalition dont on parlait tout à l'heure, les villes alentours, elles, n'ont pas été remportées par des maires de gauche majoritairement. On peut même parler de Saint-Pierre-des-Corps, qui pour la première fois ne sera plus communiste, mais est passé carrément à droite, puisqu'il y avait 3 listes de gauche au second tour.
C'est un choc.
Oui, et voilà, donc ce sera très intéressant à suivre, et ça on en parlera même dans la prochaine émission, la semaine prochaine, à la même heure, dans Autour de l'actu.
Exactement, on espère avoir des interviews pour faire un petit contenu, on vous spoil pas tout, on en regarde sous le pied, et on va peut-être aussi, il y a une question qui est très, parce que ta chronique était très intéressante, mais oui, est-ce que l'écologie est un monopole de gauche, est-ce que c'est surtout le monopole d'écologie des Verts, on a entendu le président Macron s'exprimer là-dessus, dire est-ce que, enfin lui-même se placer du côté écologiste tout en, ben, en évacuant les problématiques écologistes, c'était assez cocasse, donc... je sais pas, Pauline, est-ce que, selon toi, on pourrait dire que c'est un monopole de gauche, l'écolo ?
Alors, moi, je vais me retenir de donner mon opinion personnelle, mais dans ce que j'observe, c'est que l'écologie, elle est revendiquée par presque tous les partis politiques, puisqu'on peut voir que de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les partis politiques revendiquent un volet écologiste maintenant. Comme ils revendiquent un volet économique, c'est plus devenu forcément une idéologie, c'est devenu une composante
des programmes.
Des programmes, même si parfois j'ai l'impression qu'ils confondent donc le mot d'écologie et d'environnement. Parce que à droite en particulier, parfois les programmes sont plus axés sur les compétences de l'environnement que sur l'écologie, où le mot est parfois dévoyé, parce qu'au départ il désigne une idéologie justement, qui n'est pas forcément compatible avec des idéologies comme des idéologies libérales, vu que l'écologie est de base entièrement anti-productiviste, donc n'est pas compatible avec certaines idéologies économiques.
Mais tu pourrais te donner une différence du coup entre l'environnement
entre environnement et écologie. Donc en fait il y a plein de définitions différentes des mots, mais la définition que je comprends, c'est que pour moi environnement c'est donc tout ce qu'on peut faire au niveau de l'environnement, et c'est pas forcément incompatible avec peu importe l'idéologie qu'on ait. On peut faire de l'environnement tout en ayant une idéologie libérale, conservatrice ou progressiste. Et en revanche l'écologie c'est une idéologie qui se base en particulier sur l'antiproductivisme et sur un respect de la nature, un respect de l'environnement, et donc qui peut être en opposition et ne pas être possible de concilier avec des idéologies qui sont productivistes. Et donc moi je trouve ça un peu hypocrite parfois de faire rentrer le mot écologie dans des programmes qui à côté ont des volets économiques productivistes. Et donc dans ce cas-là par contre je les invite davantage les politiques à utiliser le mot environnement, ce qu'ils ont tout à fait le droit d'utiliser, mais je pense que ce serait moins confusant pour les électeurs.
Mais justement, cette critique, on peut l'appliquer à Europe Écologie Les Verts, du coup, je pense, parce que Europe Écologie Les Verts, voilà, elle a Europe dedans, on est plutôt dans une Europe plutôt libérale, économique, on est sur la libre circulation des biens, voilà, le marché, les capitaux, etc. Donc on a une Europe axée comme ça. D'ailleurs, Europe Écologie Les Verts, il a un volet très européen, il est né d'ailleurs d'un versant européen et non d'un versant national. Même si en France, ça s'est décliné avec Europe Écologie Les Verts, on connaît surtout Eva Joly, voilà, qui a une double nationalité, Daniel Combini, etc. Et donc, est-ce que cette critique de dire que bah, ils utilisent l'écologie pour se montrer en avant, dire on est écologique, mais derrière, ils sont plutôt libéraux économiquement parlant. Voilà, je sais qu'en antenne, on parlait du maire de Grenoble qui a des positions libérales, mais qui a Europe Écologie Les Verts et qui des fois a des positions pour un libéralisme économique. On parlait d'Anne Hidalgo, même si elle n'est pas Europe Écologie Les Verts et qu'elle est OPS. Est-ce que cette critique, on pourrait pas l'appliquer justement à Europe Écologie Les Verts? Ça serait pas un petit peu le truc à suivre jusqu'aux prochaines élections.
Savoir... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir si Europe Écologie Les Verts a un tournant antiproductiviste ou non, s'ils deviennent plus Macron compatibles ou s'ils décident de faire une alliance avec la gauche. Ce sera à eux de voir et à leurs électeurs de choisir. Et pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, Europe Écologie Les Verts, c'est comme n'importe quel mouvement politique. Il y a plusieurs mouvances à l'intérieur. On peut voir que Julien Bayou, par exemple, a des positions beaucoup plus antiproductivistes, voire anticapitalistes, que Jadot, qui lui a plusieurs fois dit qu'il était pour une écologie verte, une croissance verte. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, ce sera à suivre et ce sera très intéressant de le faire dans les prochaines émissions.
Parfait, ben on va scruter ça. Mélissa nous faisait des grands signes en antenne en disant attention, et les 55, et qu'est-ce qu'on retrouve après notre après le tour de l'actu? Il me semble que c'est la méridienne.
Alors non, ce n'est pas la mère indienne. Voilà, non, je ne suis pas votre maman, désolée. Oh non, mais c'est la méridienne. Donc méridienne, je vous propose toujours dans notre thématique révoltes et contestations de réécouter Catherine Pélage, qui est enseignante-chercheure à l'Université d'Orléans, et elle va nous parler de son travail sur Las Hermanas Mirabal, donc trois femmes exceptionnelles. Voilà, donc je n'en dis pas plus, je vous laisse réécouter Catherine Pélage. Et chère Pauline et Raphaël, ce serait quand même dommage de terminer cette émission sans écouter votre fabuleux jingle de sortie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Voilà. Bonne journée à tous, chers auditeurs, et on se retrouve demain.
Retrouvez le tour de l'actu de 11h30 à midi chaque lundi sur Radio Campus Tours pendant tout l'été.